Pardon, je m'aperçois que je voulais montrer ce que nous faisons dans la librairie. Ça, c'est un programme mensuel, donc qui est le programme de nos rencontres. Il y en a une chaque jour chez nous. Et puis, nous avons aussi un site internet dans lequel il y a un grand nombre de bibliographies thématiques. Mais bon, je ne voulais pas rentrer dans les détails d'entreprise.
Oui, bonjour. Je voulais vous remercier pour ces exposés qui sont passionnants tous les deux. Et je voulais poser une question à Christian Torel parce que j'ai été très très touchée par son texte, parce que c'est vraiment un texte dont il s'agit, par lequel il décrit, il analyse la mutation profonde qui est liée à l'usage d'Internet et à l'avènement d'Internet, et notamment par la question, enfin, ce qu'il dit de la disparition, finalement, du risque de disparition, de ce qui pourrait disparaître si on n'y prenait pas garde, concernant la présence du libraire, sa voix, son corps. Et effectivement, je partage tout à fait cette opinion. En revanche, il me semble que ce que vous dites concernant la solitude de l'internaute, la solitude face à l'écran, il me semble qu'il y a quand même, à travers ce média qui est Internet, quelque chose qui peut circuler autour de l'écrit, quelque chose du désir. Il y a un désir d'écrit, un désir qui peut s'incarner et qui va se déposer dans des liens communautaires qui sont très actifs et qui peuvent traduire ce désir d'écrit. Moi, je le vis, par exemple, dans des communautés auxquelles je peux appartenir d'amateurs. Et effectivement, là, il y a quelque chose qui circule, qui se transmet. Donc, il faut quand même faire un petit peu attention, il me semble, quand on parle d'Internet, et de la disparition de certaines médiations qui, certes, sont menacées, mais en même temps, il y a d'autres médiations qui se recréent et qui incarnent quand même quelque chose d'assez puissant autour de l'écrit.
Je reçois ce que vous dites, évidemment, mais d'une certaine façon, pour moi, il est un peu difficile de ne pas recevoir ce qui est en train de muter comme un échec dans ce qui a été, pour moi, dès il y a 30 ans, à l'œuvre dans ma décision de me confronter à ce métier pour ce qu'il contenait de vertus dans la cité, si vous voulez, c'est-à-dire d'être un acteur de la sociabilité des gens. Et au fur et à mesure que les années sont passées, notamment depuis une dizaine d'années, on a vu fondre ce que nous avions pendant 20 ans constaté et espéré, on va dire d'éternité, qui était de voir des gens le samedi, notamment, parce que c'est le jour de repos, on le sait, ou même les autres jours de la semaine, se rencontrer de manière concertée ou par hasard dans les briques pour échanger sur la vie, sur la politique, sur la cité, sur l'État, sur l'état de l'État, sur l'état de tout, ou sur les livres. J'ai le sentiment qu'effectivement, enfin, j'ai pas le sentiment, même je constate que ce que nous avons pendant des années réussi à être, c'est-à-dire un lieu public où s'exprime de façon à la fois ou tribale ou communautaire ou groupale des éléments de ce public, c'est en train de nous échapper pour probablement partir vers des choses telles que vous les décrivez. Simplement, les choses telles que ces regroupements sont des regroupements médiatisés au départ par des réseaux qui peuvent être constitués d'individus géographiquement complètement séparés. Ce qui n'est pas en soi, c'est autre chose. Encore une fois, je répète que moi, une des choses qui m'a poussé à ce métier, c'est non seulement le fait qu'il était rattaché, que le livre était rattaché à tous les autres lieux des expressions artistiques et culturelles, mais aussi qu'il était politiquement déterminé et politiquement déterminant. C'est-à-dire, voilà, on est dans la police. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu un peu à...
Thierry Ermakov. Oui, merci. Donc moi, c'est en fait une question que je voudrais poser à l'un et à l'autre. Au fond, sans opposer à la fois les techniques Internet, les autoroutes dont a parlé Robert Damien hier, est-ce qu'on ne va pas dans un avenir finalement relativement proche, du moins heureusement relativement proche, arriver parce qu'au retour de ce qu'appelle Christian Torel l'action dans la cité, mais que pourrait reprendre à son compte, j'imagine, Anne-Marie Bertrand, le lieu, le corps du libraire, le corps du bibliothécaire, et au fond, ces lieux qui sont d'abord et essentiellement des lieux de rencontre, et que parce que je suis bibliothécaire, j'ai été libraire, les librairies comme les bibliothèques sont finalement, au-delà de leur appréhension, compréhension des techniques qu'on appelait nouvelles, restent quand même des lieux physiques où les gens physiquement vont pouvoir aussi se confronter. Je sais aussi des lectures de Paul Virilio qui sont très anciennes, qui me font penser à tout ça.
Je vais bien commencer à répondre. Effectivement, et c'est un des paradoxes de la situation actuelle, alors qu'on parle, la dématérialisation des textes, de l'image et du son, aujourd'hui une technique extrêmement répandue. On continue à construire des bibliothèques, et on en construit même en grand nombre et de façon toujours aussi soutenue. Donc c'est un paradoxe qui, me semble-t-il, est ancré sur ce que tu dis, le fait que les bibliothèques, comme les librairies, sont des lieux où les gens peuvent se rencontrer, peuvent débattre, peuvent frotter leurs opinions, leurs opinions à celles des autres, être... C'était Pierre Pachet qui disait être solitaire ensemble. Je ne sais plus exactement son expression. Enfin, ça voulait dire ça. Et je crois que même si c'est un effet induit, c'est pas l'objectif premier ni d'une librairie ni d'une bibliothèque, mais encore que l'idée d'être un endroit où les idées, les textes, les émotions, les mémoires circulent. C'est évidemment une idée extrêmement positive et qui, moi, me rend tout à fait optimiste sur l'avenir des bibliothèques et l'avenir des librairies, même si beaucoup de choses vont changer, ont commencé à changer, bien entendu, en matière de modalité de l'offre, de la rencontre avec les usagers, les clients, donc pour les bibliothèques, les clients pour les librairies. Il me semble que cette chaleur humaine, j'employais ce terme tout à l'heure, cette idée où des vrais gens peuvent se rencontrer dans des vrais lieux, des lieux généreux, des lieux libres, des lieux de confrontation des idées, c'est une idée, me semble-t-il, d'avenir.
Je crois que les bibliothèques auront peut-être une force par rapport aux librairies, c'est qu'elles sont avant tout des lieux de solitude et de méditation, de méditation avant le travail. Moi, mon fils est en médecine, depuis la seconde, et jusque là, il est en quatrième année, il va travailler, ma fille aussi va travailler en bibliothèque, alors qu'il n'emprunte pas de livres en bibliothèque. Mais je crois que c'est d'ailleurs beaucoup se développer. Hein. Je crois que ça pose même un problème de fréquentation pour les bibliothèques, mais très rarement, il vient dans la librairie de ses parents, je veux dire, où l'atmosphère n'a rien à voir. Il y a une façon d'être ensemble et de travailler séparément, enfin à corps séparé, à tête séparée ensemble, que nous n'offrons pas. Et je crois que nous, les seuls moments où les jeunes gens comme ça viennent partager quelque chose, d'abord c'est évidemment pas dans le silence, mais plutôt dans le partage, plutôt dans l'évocation, dans la discussion, dans le dialogue, et c'est au moment des débats quand ils viennent. Et ce sont pour des débats très particuliers où, parfois, quand ils sont poussés par certains de leurs enseignants, ils finissent par débattre par groupuscules à l'extérieur de la salle de rencontre, une salle qui fait une centaine de places. Mais je finirai en disant que nous pourrions maintenir ces facultés sociales, hein, on pourrait les maintenir à la condition que notre régime économique nous le permettent. Pour les bibliothèques, je peux me faire du souci parce que je pense que les finances publiques, si j'en crois en tout cas cette année, déjà la dégradation considérable des achats, je pense que on est autour de moins 15% en dépenses. On travaille quand même beaucoup avec les bibliothèques. On constate déjà un très fort effritement des achats. Donc les bibliothèques vont être, j'imagine, touchées par des problèmes économiques. En tout cas, en librairie, notre équilibre, nous, il n'est dû qu'à notre activité et qu'à ce que les gens accepteront de continuer à acheter, on va dire, pour la plus grande part pour nous, sous format papier. Je sais que nous avons essayé de nous faire une petite place dans ce qui est en train de se profiler, mais bon, ben voilà, c'est un autre problème. En tout cas, l'impératif économique pour nous, c'est lui qui est la première porte avant qu'on pense à l'activité sociale et publique.
Est-ce que je peux poser une question à Christian Torel ? Dans votre intervention, à un moment donné, je voudrais que vous reveniez sur ce point parce que vous êtes passé un peu vite. Vous avez parlé de travail d'équipe, oui. et d'une équipe intergénérationnelle, enfin plurigénérationnelle. Oui. Et c'était dans la rubrique la relation client. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se passe hein?
Chacun des six grands secteurs de la librairie, six ou sept grands secteurs, est constitué de 3 à 4 ou 5 personnes. Il y a 30 libraires chez nous, 29 je crois. Et il y a assez souvent, dans la majorité des cas, je pense qu'il y a un seul cas qui ne l'est pas, il y a quelqu'un de plus ancien. Parce que maintenant, on a déjà depuis quelques années, depuis 3-4 ans, des départs à la retraite. Et il y a eu une espèce de creux où peut-être la librairie a grandi très vite, donc on a une équipe qui s'est considérablement rajeunie. Donc qui ne bénéficie pas de ce sur quoi je n'ai peut-être pas assez insisté, qui est la question de la culture d'entreprise. Je crois que cette librairie, au départ, c'est 80 mètres carrés, nous sommes 4, aujourd'hui on est 40, mais elle tient à ce que mon épouse et moi-même avons voulu en faire. Et donc ça s'est transmis évidemment plus facilement à des gens qui aujourd'hui, quelques-uns des anciens, qui sont aujourd'hui devenus des cadres et qui ont suivi l'évolution de la librairie et qui essaient de transmettre à la fois dans la relation au livre, dans la relation au produit, mais aussi dans la relation client, qui essaie de transmettre ce à quoi nous avons souhaité arriver. Je ne sais pas si j'ai...
Oui, tout à fait. C'est cette question de transmission qui me paraît tout à fait intéressante.
Une question à Anne-Marie Bertrand, que je vous remercie pour son exposé. Est-ce que vous pensez que dans une bibliothèque de lecture publique, la présence d'une section patrimoniale pose des problèmes ou des solutions, apporte des solutions particulières à l'œuvre de médiation?
Je ne suis pas sûre de comprendre bien la question. Quel est le rapport entre la section patrimoniale et la médiation? Vous pouvez préciser un petit peu?
Voilà. J'ai eu accès à un certain nombre de bibliothèques qui avaient donc une section patrimoniale. Et ce n'était pas forcément le même public, ni les mêmes attentes. Donc j'aimerais avoir votre opinion là-dessus.
Mais il me semble qu'effectivement, c'est des sections qui sont spécialisées dans un certain type de collection, qui sont en règle générale, puisque patrimoniales, plus fragiles que le reste des collections proposées au public. Et si vous avez eu des difficultés d'accès, ça ne me semble pas anormal dans la mesure où, autant dans les collections courantes, c'est l'accessibilité, la transmission, la communication, la médiation qui sont des vertus majeures, autant en matière de patrimoine, c'est la conservation qui est tout à fait normalement érigée comme la vertu majeure. Donc la question de la médiation se pose de façon toute différente. La manipulation physique des documents se pose d'une façon tout à fait différente et donc entraîne plus largement un rapport à la collection et à sa communication différente. Est-ce que c'était ça votre question? Oui.
Bonjour Alain Pierrot. Je pense que dans votre exposé, Madame Bertrand, il y a peut-être quelque chose sur lequel vous pourriez apporter des précisions. C'est si dans vos formations, vous envisagez de laisser plus de place à l'action in vivo d'auteur, de lecture dans la formation des bibliothécaires, qui est quelque chose d'extrêmement important chez les libraires et qui prend de l'importance. Est-ce que, de ce point de vue, cette sorte de convergence des médiateurs entre les libraires et les bibliothécaires est prise en compte ?
Alors, chez nous, oui. Enfin, je ne veux pas parler au nom de toutes les structures de formations diverses qui s'activent dans le monde des bibliothèques. Chez nous, on essaye depuis quelques années, et sous la houlette de Bertrand Legendre, de mieux former les bibliothécaires à la connaissance du monde du livre et donc à de futurs partenariats, de futures collaborations, en particulier entre bibliothécaires et libraires. Ça nous paraît tout à fait indispensable que les bibliothécaires sachent mieux se positionner dans la chaîne du livre et sachent mieux travailler avec les autres acteurs de la chaîne du livre. Et donc, à l'ENSIB, on a une formation, donc une trentaine d'heures pour les élèves conservateurs sur cette question-là, et une formation dans laquelle Thierry Makoff complétera ma réponse si nécessaire, une formation qui voit intervenir non seulement des universitaires prestigieux, mais des praticiens. Des libraires interviennent dans la formation. Et puis, au-delà de ça, l'ENSIB elle-même, en tant qu'école, fait intervenir régulièrement des auteurs. Enfin, c'est une activité qui nous est familière, à laquelle on attache de l'importance, qu'on essaye de transmettre à nos élèves et qu'on pratique pour notre propre gouverne.
Mais il me semble qu'il s'agit d'actions culturelles, justement, qui s'est développée dans les bibliothèques à travers les débats, les expositions aussi, puisque c'est... Il y a de la médiation.
Oui, bien sûr, les expositions, l'avenue d'auteurs, l'avenue d'illustrateurs, de conteurs, de traducteurs, c'est une activité très très répandue dans les bibliothèques aujourd'hui. Ça fait partie de tout le volet, alors qu'on appellerait plus volontiers valorisation que médiation, mais ça participe de cet immense continent qu'est la médiation. C'est vrai que mon intervention a été évidemment lacunaire sur beaucoup de points, parce que la médiation prend toutes sortes d'aspects extrêmement différents, riches, dans des registres différents. Mais oui, l'action culturelle, la valorisation des collections et des œuvres, c'est une activité très, très répandue. Et il y a aussi une formation à la mise en place de cette action culturelle.
Si vous me permettez un petit mot là-dessus, puisque j'avais peut-être terminé de façon un peu trop imprécise sur cette question. Il se trouve que nous avons le sentiment, mon confrère Sorams, enfin Jean-Marie Seves de Sorams à Montpellier, et moi-même ainsi qu'un confrère de Strasbourg, pour ne pas le nommer, qu'il est en train peut-être depuis un an ou deux de se constituer un pôle un peu compliqué dans la relation entre les auteurs, les libraires et certaines bibliothèques, dans la mesure où parfois l'auteur accueilli en bibliothèque est rémunéré. Et où il arrive que des auteurs, sans l'entremise des éditeurs, parce que là, l'entremise des éditeurs est fondamentale. L'éditeur, pour le moment, choisit le libraire. Donc il y a une espèce d'effet de, entre guillemets, pardon, je prenais ça de concurrence, sur la question de l'invitation d'auteur qui pourrait peut-être poser un problème s'il n'y a pas au préalable de relation, de négociation, de positionnement concerté, de régulation. Et cette régulation peut être par l'entremise de la commune, de la ville, ou des départements, si cette régulation n'existe pas au préalable. Ça, c'est une des anxiétés que nous avons, parce que si le schéma d'Attali, qui est dans son avant-dernier bouquin, parce qu'il y en a un tous les mois, donc on s'y perd un petit peu, c'est le livre sur l'avenir, là, je ne sais plus, où, de façon complètement démente, il dit que le droit d'auteur étant terminé, de toute façon, il n'y aura plus de droit d'auteur, les auteurs devront vivre de leurs prestations publiques. grosso modo, un petit peu partout. Alors, quand on s'appelle Jacques Attali, c'est facile de vivre ses prestations publiques, même en une prestation, il fait l'année. Pour un certain nombre d'auteurs plus modestes, c'est plus compliqué. Surtout qu'on n'est pas nécessairement invité, et surtout pas au même tarif. Voilà, il est en train, là, de se jouer quelque chose, et j'ose espérer que les talents, qui sont pas toujours évidents, de prophètes de Jacques Attali, seront juste une espèce de vague utopie non réalisée, parce qu'au bout du compte, je pense que quand même le droit d'auteur est encore la meilleure des rémunérations pour l'auteur. Je ne veux pas non plus limiter ses propres... C'est bien...
Oui, c'est Dominique Cartelier, je suis enseignante et je suis responsable de la formation à l'IUT, de la formation au métier du livre à l'IUT de Grenoble. Mmh. Et donc c'était à propos de cette question de la formation, donc c'était plus une remarque hein, qu'une question, à savoir qu'on était un peu tiraillé par rapport à cette formation, donc des étudiants qu'on forme à Bac plus 2 et plus spécifiquement là au métier de bibliothécaire hein, pour ce qui est de la formation à Grenoble, de l'IUT à Grenoble. On était en fait tiraillé maintenant dans la formation entre le temps passé sur les outils, aller apprendre l'informatique documentaire, la recherche documentaire, etc., et notamment le temps passé, et ça à l'aide de toutes les technologies nouvelles, et l'autre aspect, c'est-à-dire effectivement plus les aspects médiation. Enfin. Et à Grenoble, on a plutôt fait le choix nouvelles technologies, que les étudiants ne ressentent pas très bien parce qu'ils nous disent fréquemment qu'ils sont venus là plutôt pour les aspects médiation et ils sont un peu frustrés, même si on suit un cadre pédagogique national, un programme pédagogique national avec quelques adaptations, mais si on essaie de réintroduire les aspects plus médiation via d'autres cours, n'empêche que on est quand même assez tiraillé maintenant dans ces formations pour arriver à la fois à former les étudiants aux outils et puis former aux différents aspects du métier.
Je ne sais que répondre. Bienvenue dans le club. C'est clair que on nous demande de réaliser la quadrature du cercle entre la transmission de compétences techniques, la connaissance des outils, des procédures d'une part, les compétences managériales d'autre part, les connaissances ou expertises disciplinaires, puisque pour nous, conservateurs de bibliothèque, c'est aussi un métier scientifique et plus tout ce qui est le versant politique du métier, puisque les directeurs de bibliothèque travaillent avec des élus, que ce soit des élus locaux, aujourd'hui les présidents d'université, et ce qui appelle une bonne connaissance de l'environnement, savoir se positionner, savoir comment se prend une décision publique, pouvoir faire de l'évaluation, de la prospective, de l'aide à la décision. Donc voilà, on est supposé répondre le mieux possible à toutes ces demandes qui, pour être remplies tout à fait convenablement, mériteraient de doubler la durée de la formation. Bon, on n'est pas du tout sur cette pente-là. Notre réponse, donc, c'est d'une part de faire la formation initiale le mieux possible et puis vraiment de considérer que la formation continue, elle est normale. En formation initiale, on acquiert un socle minimal, j'espère mieux que minimal, optimal, mais qui doit évidemment être entretenu, amélioré, spécialisé, complété tout au long de la vie, comme on dit maintenant, et c'est plus seulement une formule. Aujourd'hui, la formation tout au long de la vie devient une réalité, je pense, côté libraire comme côté bibliothécaire. On ne peut pas se contenter de vivre sur les acquis de sa formation initiale. Donc oui, c'est compliqué. On a du mal à mettre le curseur là où il faut. Bon, c'est un des intérêts de ces fonctions.
Annie Brigand, bibliothécaire à Grenoble également. J'avais deux remarques plutôt que questions. L'une sur, je voulais revenir sur la question de la rémunération des auteurs en librairie, en bibliothèque. Il y a une complémentarité quand même qui se dessine, me semble-t-il, alors qui n'est sans doute pas toujours parfaite, mais entre les programmes d'invitation d'auteurs des libraires qui sont quand même très axés sur l'actualité littéraire, hein, et donc les auteurs dans ces conditions sont en promotion, hein, et l'action culturelle des bibliothèques qui tout de même se fait beaucoup plus sous forme de cycles thématiques, de festivals d'ailleurs auxquels les librairies sont généralement associées également. Donc ça, c'était un premier point pour Christian Torel. Et le second point sur lequel je souhaitais revenir avec Anne-Marie Bertrand, c'est le conseil en bibliothèque. Il me semble en effet très important de travailler là-dessus. Et je crois que dans ce que vous avez dit l'un et l'autre, il y a deux axes qui pourraient peut-être servir de fil conducteur à la réflexion sur la formation dans ce domaine-là. D'une part, la relation individuelle. Quelles sont les conditions à mettre en œuvre pour que cette rencontre fructueuse dont parlait Christian Torel entre le lecteur et le bibliothécaire se mette en place? Donc il y a des questions de savoir-être, évidemment. Il y a aussi des choses à imaginer dans la conservation de la mémoire du parcours du lecteur, pouvoir retravailler dessus avec lui et voir à partir des choix qu'il a pu faire déjà, ce qu'on peut lui conseiller d'autre, etc. Et puis il y a la question du partage, de la transmission, de la mutualisation au sein d'une équipe de bibliothécaires, parce qu'évidemment on n'a pas toujours la personne ressource, le bibliothécaire référent présent, en littérature notamment. Donc là-dessus, eh bien, il faut travailler, à mon sens, sur différentes choses, notamment sur l'indexation de la fiction, hein, qui est quelque chose qu'on ne fait pas du tout, enfin, qui n'est pas du tout dans la tradition du métier, qui pourtant me paraît indispensable. Je parle d'indexation matière, hein, de mots-clés, etc. Et puis une mutualisation, une mise en commun de tout le savoir, enfin, de toutes les compétences accumulées, hein, par la connaissance de l'édition, accumulées par les différents bibliothécaires pour travailler sur des bibliographies à usage interne, des questions fréquemment posées, par exemple, hein, avec des listes de textes, etc., que l'on peut conseiller pour répondre à des demandes qu'on aurait préalablement inventoriées. Voilà.
Alors, une remarque sur votre remarque, puisque ce n'est pas une question, donc je ne réponds pas. Sur le deuxième point, la question de la mutualisation, de la transmission, je suis parfaitement d'accord. Et c'est notamment pour ça que j'avais posé la question à Christian Torel. Ça me paraît très important, justement, cette mutualisation des compétences, hein, l'idée que c'est une compétence collective, hein, qui est mise à disposition de nos publics. Sur le premier point, l'individualisation de la relation, pour moi, c'est... Alors, je suis d'accord sur l'objectif, hein, mais la mise en œuvre me semble beaucoup, beaucoup plus compliquée. À Rennes, où j'étais la semaine dernière, ils font 5000 entrées le samedi. Bon, comment diable est-ce qu'on noue des relations individuelles quand on est dans ce flux aussi soutenu?
Alors, il y a peut-être aussi une question de visibilité de cette fonction-là, et peut-être une réflexion à avoir sur la façon dont en faire un service visible et reconnu et connu des lecteurs. Bon, tous les lecteurs, je pense, ne sont pas en demande de relations individuelles aussi. Ça ne concerne pas évidemment la masse des milliers de lecteurs qu'on reçoit. Et on peut aussi imaginer de développer des services plus, hein, des services qui permettent une mise en relation dans la durée entre un bibliothécaire et un lecteur. Mais j'ai bien conscience qu'effectivement, dans le cadre des grands établissements, c'est beaucoup plus compliqué que dans les bibliothèques de quartier.
À nouveau, Alain Pirot, il y a un autre aspect. Vous avez tous les deux insisté sur la relation, je dirais, physique et la coprésence entre libraire, bibliothécaire et le lectorat. Est-ce que vous envisagez des conséquences également dans l'aménagement des locaux, tant des bibliothèques que des librairies, pour favoriser ce que demandent ou vantent beaucoup d'internautes, c'est la possibilité de se retrouver autour des livres entre lecteurs. C'est-à-dire donc la médiation de créer des places où auteurs, bibliothécaires, libraires se rencontrent, mais également lecteurs se rencontrent sur le terrain du médiateur.
C'est des pistes auxquelles il faut réfléchir. J'en ai évoqué quelques-unes sur les clubs de lecture, la création de prix des lecteurs. Enfin, effectivement, et là, les sociologues de la lecture, et notamment d'excellents auteurs publiés par Les éditions de la BPI l'ont dit depuis longtemps. Et comment faciliter le discours autour de la lecture? C'est un objectif, me semble-t-il, très important, justement dans le cadre qu'évoquait aussi Christian Torel tout à l'heure, de la diminution du nombre de forts lecteurs. Et donc essayer, comment dire, d'accompagner, d'encourager, d'entretenir la flamme des lecteurs, c'est un objectif évidemment tout à fait important pour nos professions. Alors, comment ça se traduit dans les locaux? Je n'ai pas de réponse précise à vous apporter. Plus généralement, aujourd'hui, dans les locaux des bibliothèques, on essaye d'organiser des espaces ou de ménager des espaces où les gens peuvent se regrouper, parler ensemble, faire du bruit, donc des espaces de convivialité, des forums, enfin, cafétéria, que sais-je, salon de lecture, il y a toutes sortes de réponses qui sont possibles. Et c'est sans doute dans ce cadre-là que pourrait aussi être organisé ces communautés de lecteurs autour des livres.
Tout à l'heure, quand j'ai parlé de la relation, me semble-t-il, hein, d'une certaine catégorie d'étudiants, je pense même beaucoup d'étudiants à la bibliothèque, j'ai oublié de dire, ça m'était venu avant que de m'égarer dans mes propres propos, que après la sortie de la bibliothèque, ils peuvent fréquenter un bistrot. Mais dans les bistrots aujourd'hui, dans les cafés, on ne s'entend plus. Alors que dans les cafés, il y a 30 ans, on s'entendait. On allait débattre du sort du monde autour d'une table dans les cafés. Et comme c'était débattre du sort du monde, si possible, on essayait de ne pas être entendu par la table d'à côté, puisqu'on pensait que c'était toujours les renseignements généraux qui étaient à la table d'à côté. Aujourd'hui, le manque de parano général fait que, après tout, si souvent, si c'est parler de rugby ou de football, évidemment, c'est bon, sauf en langage codé. Mais donc, moi, je serais assez tenté, et c'est une. Je crois que depuis 25 ans, nous essayons d'introduire un café dans cette librairie qui est passée de 80, alors depuis 1981 exactement, date à laquelle on est passé de 80 à 250 mètres carrés, on a voulu installer un café. Et on est à 1700 mètres carrés, on n'a toujours pas de café. Et parce que tout le temps, il y a quelque chose qui vient manger l'espace, c'est le livre. Le livre est complètement, c'est un dévorateur d'espace. Nous avons, j'espère, nous aurons là prochainement la possibilité de faire un café. Je pense l'année prochaine. Enfin, il devait être déjà fait en 2009, en 2008, puis en 2009, peut-être en 2010. Donc, c'est un petit café. On a un patio de 50 mètres carrés dans lequel il y a un certain nombre de tables et de chaises où, avec un distributeur de café où les gens peuvent effectivement se retrouver. Il y a des jeunes du lycée à une certaine époque qui venaient tous les midis prendre leur café et même manger leur sandwich, parfois de façon recréer le café d'à côté, c'est-à-dire parfois de façon un peu trop bruyante. Contrairement au café, nous, on peut leur dire. Ça, c'est un des avantages d'être un lieu relativement silencieux ou à l'écart. C'est qu'on peut leur dire, bon, là, s'il vous plaît, vous baissez le ton. Au café, on ne peut pas le dire. Enfin, je ne crois pas. Donc, il y a ça. À une époque même, j'avais pensé, on avait loué un local qui aujourd'hui est une galerie, qui fait 150 mètres carrés, et ma première tentation avait été de faire une bibliothèque, c'est-à-dire de prendre un certain nombre de livres de la librairie, de prendre aussi de mes propres livres à moi, de mettre des usuels à la disposition du public avec 3-4 écrans et recréer une espèce de bibliothèque. Bon, puis on a tourné tout ça et puis finalement on a laissé tomber. Après tout, gère chacun son métier, mais c'était aussi dans l'idée de créer un lieu de lien. Mais si on crée une bibliothèque, c'est pour tout de même pour qu'il y ait du silence. Donc si immédiatement s'y installe une bande de 3 ou 4 pèlerins qui vont disserter du sort de je ne sais quoi, puisque le sort du monde, on sait aujourd'hui qu'on n'en discute plus, donc très vite, il y a un peu trop de bruit. Voilà, donc je crois que nous sommes très content qu'il y ait des lieux où on puisse disserter en bibliothèque, parce que tout de même, ce qu'on attend avant tout de la bibliothèque, c'est le silence. En librairie, c'est pareil, c'est un peu ambigu. Par exemple, il n'y a pas de musique chez nous, il n'en est pas question. Pas le seul son que nous voulons entendre, c'est celui des voix. Des voix des vendeurs et des voix des... Et encore, bon, ça dépend, il faut le moduler. Voilà, donc oui, moi je serais très pour ça. Simplement, il faut aussi Dans la salle de débat, l'autre jour, il y avait 5 gamins de lycée qui lisaient des BD, puisque le rayon BD est à côté. Alors ils étaient, bon, chacun dans leur... Ça, c'est à peu près quotidiennement, entre midi et deux. Alors, ils sont dans une espèce de côté un peu anomique, c'est le bordel, ils ont changé les chaises de place, et voilà, ils se mettent là. Et bon. Je ne sais pas si on vient pour parler en petit groupe. Il est évident que je souhaiterais que nous allions vers ça.
Merci. Nous allons donc. Merci beaucoup.
Est-ce que juste je peux dire un mot, parce que je crois que je n'ai pas répondu. Il y en a pour deux petites secondes sur l'action des auteurs, parce que je ne voudrais pas. Il existe en Allemagne une méthode de rémunération des auteurs que je ne connais pas dans le détail, mais grosso modo, qu'un auteur se déplace pour une lecture en bibliothèque ou dans une librairie, il est payé. Il est payé par le Land. Ça pose d'ailleurs un problème en France d'accueil des auteurs allemands. Nous accueillons, nous, énormément d'auteurs étrangers, essentiellement espagnols, américains, un peu anglais, parfois asiatiques, quasiment pas d'allemands, parce que les Allemands sont habitués à être rémunérés. Ce que je trouve très bien, quand il existe une espèce de moyen mutualisé de les rémunérer. Et c'est le cas en Allemagne, où le Land prend en charge, semble-t-il, la rémunération comme une espèce de cotisation sociale. Voilà, et je pense que ce serait peut-être une façon de résoudre cette ambiguïté qui est en train de naître et qui me semble, je ne voudrais pas jouer les mauvais prophètes, mais je pense que ça pourra peut-être poser un problème. Quant à nous, on invite beaucoup quelques-uns de nos écrivains, au moins un ou deux par mois, à la médiathèque à Toulouse. Je ne sais pas si ça aura un peu... Excusez-moi de vous avoir coupé dans votre...
Non, non, je vous en prie. Donc, voilà, merci beaucoup. Nous attendons donc maintenant Thierry Ermakoff et les intervenants du premier débat de cette journée, donc Jean-Louis Soubret et Dominique Cartelier, puisque la troisième intervenante, Mijo Thomas, malheureusement est souffrante et ne peut pas être présente. Voilà. Donc Thierry Ermakoff, qui est l'un des responsables de l'ENSIB, va animer cette table ronde.